quelqu'un disait récemment, un esprit avec 7 milliards de visages, si ça vous parle. Ça m'a bien parlé. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais nous inviter à... quelques secondes. Merci. Alors, je vais introduire en quelques phrases ce groupe, et puis ensuite, nous serons libres de partager à propos de ce que nous ressentons, à propos de ce que nous vivons, à propos des situations de notre vie. Il n'y a pas de situation de notre vie qui ne soit pas connectée de près ou de loin au sujet d'aujourd'hui. Et je peux dire d'une manière plus globale que le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'est l'amour. Le sujet de la réunion de demain, c'est l'amour. Et le sujet de toutes les réunions jusqu'au dernier jour de votre vie, ça sera encore l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour. Voilà. J'ai nommé quelques sujets que nous pourrons développer. On pourra parler de ce qu'on appelle l'illusion ou le samsara selon d'autres traditions et par opposition à cette illusion, qu'est-ce que la réalité, la vraie réalité, la phrase qui revient souvent, nous sommes un, seul l'amour existe, qu'est-ce que le pardon véritable? La phrase qui résume à elle seule toute la non-dualité, Dieu est. Et bien sûr, on ne va pas en rester à ces deux mots, même s'ils contiennent tout. On va les développer, détailler. Qu'est-ce que la dualité, puisqu'on parle de non-dualité? Qu'est-ce que l'ego? On pourra parler aussi des dimensions, les apparentes dimensions dans notre monde, troisième, quatrième, cinquième, au-delà. Qu'est-ce que l'expérience humaine et à quoi est-elle utile? Qu'est-ce que l'expérience spirituelle et comment nous pouvons passer de l'une à l'autre? Comment changer notre vision, puisque dans beaucoup d'ouvrages, le changement principal est un changement de vision. Et on va parler du vrai bonheur, celui qui réside à l'intérieur, en dehors de tout aspect matériel. Alors, en parallèle à tout ça, il y a beaucoup d'ouvrages, certains sur lesquels nous revenons plus souvent que d'autres. Il y a le gros pavé de 1300 pages, Un cours en miracle, qui est séparé en trois livres reliés en un seul. Une partie théorique d'environ 700 pages, un livre d'exercices de 365 exercices, un par jour de l'année, et puis un manuel pour enseignants. Un livre très dense, un autre livre qui part de celui-là, de Gary Renard, que j'ai là, que j'ai lu et relu, et qui s'appelle « Et l'univers disparaîtra ». Et c'est un excellent moyen de commencer la lecture d'un cours en miracle que de pouvoir parcourir ce livre d'abord. Mais c'est pas une vérité absolue, ça a été ma vérité. Gary Renard, on va faire de la place. Du silence. Alors c'est un peu dans le désordre, mais vous pourrez voir ce qui résonne pour vous. De Paul Ferrini, L'Évangile selon Jésus. Donc un ouvrage un peu plus récent, qui est complètement non-duel. Paul Ferrini, un Nouveau Testament pour notre époque. De Jaïm, qui en a écrit quelques-uns, les lettres de Jéchoa, traduit en français par Sylvain, ici présent. Un petit livre, mais alors une grande expérience pour moi et pour d'autres, hein. La vie impersonnelle, c'est un livre qui a été écrit il y a 100 ans, qui a été reçu en vérité, plus qu'écrit, par quelqu'un qui est resté anonyme et qui est très court et vraiment très percutant. Il y a quelques versions différentes qui circulent. On peut aussi le lire gratuitement sur Internet. Il n'y a pas d'auteur, donc c'est d'après la traduction d'Hélène Baron. Carnet de conscience, écrit par Sylvain Duboulet, peut-être voudra-t-il le présenter tout à l'heure, a été écrit d'après Sylvain, presque en un jet, très rapidement, d'après qui nous sommes. Ouvrage non duel. Au-delà d'un cours en miracle a été aussi reçu par Sylvain et Phoebe, une femme qui reçoit souvent des messages d'une entité ou d'un être qui s'appelle La Voix ou qui n'a pas de nom. À nouveau Gary Renard, votre réalité immortelle, c'est celui qui a pris la suite, c'est le second ouvrage de Gary Renard. Les lettres de Jéchoa par Pamela Crib. C'est entièrement disponible sur Internet en tant que message individuel. C'est une compilation papier pour ceux qui aiment la lecture à l'horizontale. Donc c'est vraiment profond. Si vous voulez approfondir ce que c'est que l'ego, la voix de l'ego, la voix du cœur, entre autres, notre réalité, notre but, voilà, il y a beaucoup de belles clés à l'intérieur. Encore une perle. Dialogue sur l'éveil. Alors le titre est pas très lisible parce que c'est en filigrane. C'est blanc sur blanc. Hein. Et en sous-titre, communion avec le Christ. Un ouvrage très parlant pour moi qui est une conversation entre Jésus. Hein. Voilà, Tom Carpenter. Et Jésus, donc, que Tom Carpenter pose des questions, et Jésus, sous forme de canalisation, répond. Donc c'est très pratique, hein, ça peut répondre à des questions très quotidiennes. Voilà un gros livre jaune, qui est assez percutant, qui a été aussi très percutant. Je l'ai lu aussi presque d'une traite, je ne pouvais pas m'arrêter. Le Christ revient, il dit sa vérité, ou ça s'appelle aussi « Les lettres du Christ ». Donc c'est aussi Jésus qui parle, l'histoire est assez peu banale, parce que Jésus en tant qu'esprit est venu former, s'est présenté à l'esprit d'une femme sud-africaine pendant 40 ans, il a aidé à nettoyer son esprit de tout ce qui pouvait être égo, pour qu'elle puisse servir de relais de diffusion de ça, des lettres du Christ. Et elle est restée anonyme cette femme, parce que... on ne se centre pas sur le messager, mais sur le message. Et donc, c'est Jésus qui parle, pas l'intermédiaire de sa voix, après une très longue préparation. Et un que j'ai reçu il y a 2 jours, et qui me semble une perle, Tom Kenyon et Judith Sion, c'est un ouvrage canalisé, qui parle, entre autres, de sexualité sacrée. Le manuscrit de Marie-Madeleine. Voilà, donc je ne peux pas encore beaucoup vous en parler, mais voilà, comment remettre la sexualité, lui redonner ses lettres de noblesse, grâce à l'expérience de Marie-Madeleine et Jésus, qui l'ont expérimenté, et dont c'est développé. Donc le sous-titre, les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis. Voilà, et puis ça vise aussi à démonter toutes ces fausses croyances comme quoi Marie-Madeleine était une prostituée, qui ont perduré à travers les siècles. Ceci, ces livres ne sont qu'une petite partie de tous les ouvrages non-duels. Il y en a dans toutes les langues du monde. Il y a des vraies perles qui ne sont pas traduites en français, comme Journey Beyond Words de, je vais oublier, le Brent Haskell, et puis The Other Voice, l'autre voix de Brent Haskell, qui contient des vraies perles que j'écoute parfois en audio et en anglais, et qui sont fortement inspirées d'un cours en miracle, mais qui ont été reçues, canalisées séparément. Et puis je vous présente Sweetie, la chatte spirituelle, qui vient dès que l'ambiance est à la communion. Et communion, je l'écris en deux mots. Alors, avant de détailler un peu plus, j'aimerais dédier cette réunion à l'Esprit 1, qui est assurément là avec nous et parmi nous, et qui est là en nous, et que nous représentons dans cette réunion. Et la réunion, je l'écris aussi en deux mots. Et je voudrais inviter l'esprit à diriger la réunion et pour ma part à lâcher le contrôle de ce qui va se dire ou de ce qui va se faire pendant cette réunion. Je vais le faire au moyen de 5 phrases que je cite assez souvent dans ma vie. Ces phrases apparaissent à la page 30 d'un cours en miracle, sont d'une puissance assez grande pour moi. Et chaque fois que je suis dans le doute ou dans la peur ou dans quelque chose qui me dépasse, je peux faire appel à ces phrases pour offrir cette situation à l'esprit pur qu'on appelle aussi Saint-Esprit. Saint voulant dire pur hein, dans ce contexte. Et ces phrases disent ceci, ça fait 4 mois que je ne les ai pas prononcées, mais je compte sur l'esprit pour me les insuffler. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Merci l'Esprit. Voilà, et pour ceux qui écoutent, je suis allé voir près d'un chantier parce que j'entendais un bruit dont je n'avais pas l'explication. Je suis allé voir s'il provenait du chantier, et puis lorsque c'était il y a une demi-heure, et lorsque je me suis trouvé devant le panneau des travaux avec les noms des entreprises, le titre de ce panneau était « Lumière Esprit ». Alors là, merci l'Esprit, merci pour ces signes. Cette réunion, assurément, est bénie, hein, comme d'ailleurs toutes les réunions. Mais ces multiples indices, sous forme de « comprenne qui pourra » ou « comprenne qui voudra », et pour le reste des personnes, ça passe inaperçu, sont d'un grand réconfort pour moi, d'une grande puissance, parce que ce sont des signes que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience humaine. Comme lorsque j'allume mon téléphone et que je vois 16h16, et puis un peu plus tard dans la journée, 20h20, et puis 3 ou 4 fois par jour, parfois bien plus, les chiffres des cadrans se répètent, et à nouveau, pour quelqu'un qui ne sait pas que ce sont des indices, ben, ça passe inaperçu. Et pour d'autres, c'est nous sommes là. On dit que c'est l'ange qui frappe à notre épaule et qui nous dit regarde-leur maintenant. Voilà. Et comme ça, tu sais que je suis près de toi. Hein. Donc, toutes ces entités spirituelles, quel que soit le nom qu'on leur donne, Saint-Esprit, ange, archange, âme, ne peuvent pas interférer directement avec nous. Mais par contre, elles peuvent nous donner des signes par les rêves, par ces petits indices, ces petits cailloux blancs semés sur notre chemin du retour à la maison. Voilà. Alors, peut-être pouvons-nous commencer par cette phrase de deux mots qui sous-tend la totalité de cette réunion, de ces concepts, qui dit simplement « Dieu est ». Et nous ne disons pas « Dieu a été » ou « Dieu sera », mais seulement « Dieu est ». Dieu est pour l'éternité, hein, puisque le présent est un moment éternel. Chaque moment est le présent. Donc quand nous disons « Dieu est », nous sous-tendons également, cette phrase sous-tend « Dieu est tout ce qui est ». Rien d'autre n'existe à part Dieu. Et quand je disais tout à l'heure, un esprit avec 7 milliards de visages, mais certainement bien plus si on considère l'intégralité de la création, mais au moins dans notre réalité terrestre, alors, si Dieu est tout ce qui est, et si nous sommes d'accord avec cette phrase de base, alors Dieu ne peut jamais s'opposer à quoi que ce soit. Parce que, étant tout ce qui est, il s'opposerait à lui-même. Et ceci est un non-sens, bien sûr. Donc, Dieu ne s'opposant à rien, ne juge rien ni personne, puisqu'il est tout. Il ne peut pas se juger lui-même. Et la conséquence, c'est que Dieu accueille tout. Tout ce qui se passe est accueilli inconditionnellement, car faisant partie de cette réalité de Dieu. Alors, nous disons Dieu parce que c'est un mot que tout le monde connaît, mais en vérité, pour certains, ce mot est connoté, donc on peut utiliser bien d'autres mots. Je suis sûr que vous avez le vôtre. On peut dire l'univers, on peut dire tout ce qui est, on peut dire la totalité de l'existence. Il ne s'agit pas de personnifier Dieu, hein, c'est un concept impersonnel, hein, qui n'est pas relié à l'humain, hein, en tant que personne, à nous. Et donc, assurément, si Dieu est tout ce qui est, nous sommes un éclat de Dieu, une étincelle de Dieu, un fragment de Dieu. On peut dire beaucoup de synonymes, on peut dire beaucoup de choses qui se rapportent à ça. On peut dire aussi que nous sommes la vague issue de l'océan universel. Alors, une vague toute seule n'a pas d'existence propre hors de l'océan. Et donc, nous faisons partie de l'océan en tant que vague. Et puis, nous pouvons aussi dire une des nombreuses facettes d'un seul diamant unique qui reflète la lumière. La facette toute seule n'existe pas, n'a pas de sens, isolée du reste. Voilà, nous sommes donc des reflets de la création divine et nous venons en tant qu'être humain, nous venons dans cette expérience humaine vivre une expérience, pardon, nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience humaine. Et non pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, comme ça peut être parfois tentant de le présenter ou de le ressentir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Nous sommes une partie de Dieu, nous sommes esprit pur, nous sommes dans notre source des êtres qui sommes éternels, inchangeables, invulnérables, et nous avons choisi de vivre une expérience duelle dans laquelle il y a des limites, hein, il y a un début, il y a une fin, il y a des opposés, il y a la vie, il y a la mort, il y a ce qui est beau, ce qui est laid, il y a le jour, il y a la nuit, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Nous sommes venus vivre une expérience finie, nous qui sommes des êtres infinis. Hein. Nous sommes venus expérimenter la naissance et la mort, nous qui sommes immortels. Nous sommes venus expérimenter le temps, nous qui sommes hors du temps, éternel, dans l'éternel maintenant. Pourquoi avons-nous fait cela? Hein. Alors, un fragment de réponse se trouve dans Un cours en miracle. Un cours en miracle dit que nous sommes venus jouer à la séparation. Il y a une idée, une pensée de séparation qui s'est introduite dans notre esprit pur et qui nous a soufflé. Et si nous n'étions pas divins, que se passerait-il? Pourquoi avons-nous cette pensée? Parce que nous avons voulu explorer quelque chose par jeu. Le jeu, c'est est-ce que je peux imaginer quelque chose en dehors de Dieu, alors que Dieu est la seule réalité? Que se passerait-il si j'osais imaginer une réalité hors de Dieu? Et parce que nous sommes des êtres divins, puissants, nos intentions sont divines, puissantes et donnent lieu à des réalisations et à des manifestations. Notre pensée gouverne le monde. Bien sûr, en tant qu'humains, nous nous en apercevons beaucoup moins qu'en tant qu'être divin. Mais en tant qu'être divin, il n'y a pas de séparation entre la pensée et sa réalisation. Hein. Et donc, cette pensée d'un instant qui a traversé notre esprit divin s'est réalisée sous la forme de l'expérience humaine que nous vivons. On peut appeler ça le Big Bang, on peut appeler ça de beaucoup de manières différentes. Nous avons souhaité savoir qu'est-ce qui pouvait exister en dehors de l'amour, ce qui revient à la même chose que dire en dehors de Dieu, puisque Dieu est amour, hein, et que l'amour est tout ce qui existe aussi. Voilà. Mais comme cette réalité est inchangeable, comme Dieu et tout ce qui est inchangeable, alors nous avons trouvé un moyen de le manifester dans un rêve. Hein. C'est comme si nous nous étions endormis et que dans notre rêve, nous avons rêvé de l'expérience humaine en lui donnant tous les attributs d'une réalité très puissante, très tangible, et à laquelle nous pouvons adhérer parce que elle nous semble réellement exister, hein, parce que nous sentons la solidité de la matière, nous ressentons l'écoulement du temps. Tout cela est admirablement fait pour donner l'illusion que cette illusion est réelle, que ce rêve est réel. Voilà, vous n'êtes pas obligés, et la plupart d'entre nous ne le vivent pas, hein, de penser que, de croire que c'est vrai, que c'est réel ce que je dis. Parce que l'expérience est tellement bien faite que c'est comme si notre réalité humaine pouvait se suffire à elle-même et que nous pouvions penser que rien ne filtre au-delà de ça. Et l'objet de ce groupe est d'élargir notre vision à au-delà de la dualité, la non-dualité. Lors d'une précédente conférence, j'avais juste fait cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Imaginez une sphère énorme. Imaginez une sphère énorme dans laquelle est concentré tout ce qui existe, absolument tout. Et à l'intérieur, à l'extérieur de cette sphère, il n'y a rien. Il ne peut rien y avoir. Et nous pouvons dire aussi qu'il n'y a pas d'extérieur à cette sphère. Nous pouvons nommer cette sphère Dieu. Nous pouvons nommer cette sphère la réalité. Et nous sommes dans cette sphère. Et rien en dehors de cette unité-là n'existe réellement. Voilà, et ce qui n'empêche pas que nous puissions utiliser notre imagination pour imaginer que autre chose se situe à l'extérieur. Mais la réalité dit, il n'y a pas d'extérieur à cette sphère. Tout ce que nous pouvons imaginer n'est pas hors de la sphère, est dans notre esprit. Nous pouvons générer des images, nous pouvons générer des rêves. Nous pouvons rêver la nuit, et le courant miracle dit que nous rêvons dans le rêve, c'est-à-dire que ces journées quotidiennes sont aussi un rêve, une illusion. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Pour certaines personnes, cette seule phrase est violente. Et nous comprenons aussi que parfois il y a besoin de progressivité pour pouvoir ne serait-ce qu'accepter que cette phrase puisse dire la vérité. Et puis il y a trois phrases qui résument l'enseignement d'un cours en miracle qui peuvent aussi être un tremplin pour démarrer nos échanges, nos partages. Et ces trois phrases se situent au tout début d'un cours miracle dans l'introduction ou la préface. Elles disent « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. » Voilà. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Voilà, c'est des phrases qui sont à tiroir. Hein. Apparemment, elles sont contradictoires et les paradoxes sont légion hein, dans le monde de la non-dualité. Puisque nous parlons de niveau, il y a le niveau de notre vie quotidienne que nous appelons illusion, et il y a le niveau de l'unité avec toute chose que nous appelons réalité. Et ce qui se passe au niveau de l'illusion, c'est notre vérité, on peut l'appeler relative. Et ce qui se passe au niveau de l'absolu, de Dieu, c'est ce que nous appelons la réalité absolue. La seule réalité. Donc, qu'est-ce qui est réel ? Le sens de la non-dualité, c'est Dieu et l'amour. L'amour ne peut pas être menacé. L'amour est inchangeant, constant, invulnérable et éternel. Et tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qui n'est pas Dieu n'existe pas réellement. Par exemple, la peur est une imagination. La peur, c'est la croyance qu'autre chose que l'amour puisse exister. Cette croyance est tellement puissante que nous manifestons en effet des états de peur. Mais la peur en elle-même, c'est simplement le reflet de notre croyance que nous puissions être séparés du tout. En dehors du tout, il n'y a rien. Mais si nous imaginons et si nous rêvons qu'il y a quelque chose, à ce moment-là, nous inventons la peur. Et ce que nous vivons en tant que peur dans notre vie de tous les jours est le résultat d'une croyance forte, d'une pensée forte qui dit « nous sommes séparés les uns des autres ». Mais c'est une croyance. Hein. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas absolue. Elle est vécue dans ce monde de dualité et parce qu'elle est, parce que nous y croyons fort, alors elle a des effets dans ce monde. Donc tout ce qui est rien d'irréel n'existe, tout ce qui peut être menacé n'existe pas. Si vous combinez les deux phrases, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, tout ce qui un jour cessera d'être n'a pas d'existence au sens absolu du terme. Un jour, ce livre sera poussière. Un jour, même la poussière n'existera plus. Un jour, la planète cessera d'être, le soleil s'éteindra. Nous vivons dans un monde de formes changeables, même si c'est dans notre perception dans très très longtemps. Mais cette bougie, dans quelques heures aussi, ne sera plus. Par contre, l'amour ne se consume pas comme la bougie n'a pas de fin et n'a pas non plus de début. Dieu n'a pas été à un moment donné, n'est pas né et ne sera pas inexistant à un autre moment. Hein. Il est éternel. Et dans ce sens, il est réel. Il est réel. Donc notre dualité dans notre existence humaine peut être un tremplin pour faire toute une collection d'expériences, heureuses ou malheureuses, puisque nous vivons les deux, bien sûr, ici, sachant que les expériences heureuses nous rappellent notre source et notre nature, et nos expériences malheureuses nous rappellent par contraste où nous voulons retourner. Peut-être est-ce là, à mon sens, le but de la du monde que nous connaissons, du monde terrestre. Alors je vais reciter quelque chose que je cite souvent, mais qui est souvent parlant pour certains. Imaginez que vous demandiez à un poisson ce que c'est que l'eau. Et le poisson ne saura pas répondre parce que il est tout le temps dedans. Et qu'à force d'être dedans, c'est transparent dans tous les sens du terme. Il n'a même pas réfléchi à ce que c'était que l'eau, puisque ça, c'est évident pour lui qu'il est dedans, qu'il a toujours été dedans, et qu'il ne se pose même pas la question. Donc il est sans voix, hein, le poisson, pour parler de l'eau. Maintenant, sortez le poisson de l'eau, et à ce moment-là, demandez-lui à nouveau de dire qu'est-ce que c'est que l'eau pour lui, et il trouvera beaucoup de raisons d'y retourner. Et beaucoup de qualificatifs pour l'eau, comme quoi elle est vitale, comme quoi pour lui c'est tout, et que sans cette eau, il n'existe plus, il est issu de l'eau, et il a besoin d'être dans l'eau en permanence. Et pour l'être humain, l'eau c'est l'amour. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui sommes issus d'un océan d'amour. Nous avons fait l'expérience en pensée de sortir de l'océan, en pensée, puisque l'océan recouvre tout, toute la réalité. Il n'y a pas d'extérieur à cet océan. Mais nous avons rêvé d'un extérieur et nous sommes sortis, apparemment. Et étant sortis de l'amour en pensée, nous n'avons de cesse que d'y retourner à travers ces expériences humaines. C'est comme si nous étions attachés à un élastique et puis nous tirions, et nous sortions de l'amour, toujours attachés à l'élastique jusqu'au moment où nous décidons de relâcher l'élastique parce que l'appel à y revenir est tellement fort et tellement puissant. Tout ça, ce ne sont que des images, hein, bien sûr. Alors cet appel, chacun de nous le possède engrammé à l'intérieur, comme un chant très mélodieux qui est dedans et dont, selon un cours au miracle, le souvenir vous ferait pleurer. Moi aussi, l'émotion intervient lorsque je repense à ce passage du cours qui est très très touchant, comme une vieille mélodie que vous connaissez très bien et dont les notes vous feraient pleurer tellement c'est chez vous que ça se passe. C'est un passage très lyrique et très romantique du cours. Donc, il y a une leçon d'un cours en miracle qui dit « Tu t'éveilleras à ton propre appel, car l'appel à t'éveiller est engrammé au-dedans de toi. » Et il peut se manifester à l'improviste dans nos vies. Il est certainement celui par lequel vous vous êtes retrouvé aujourd'hui autour de cette table, même si pour vous ça s'appelle « curiosité ». Il est peut-être aussi celui par lequel tu t'es retrouvé devant tes haut-parleurs à écouter cet enregistrement, toi qui fais partie maintenant de notre grand groupe. Cet appel, c'est « je veux du sens hein, ». Quel est le sens de cette vie? Est-ce que c'est juste venir, vivre, souffrir, avoir des instants fugace de bonheur, laisser une petite trace et puis repartir, ou est-ce que le but est bien plus grandiose que cela? À quoi elle sert, hein, cette dualité? Pourquoi avons-nous rêvé de l'impossible? Pourquoi avons-nous rêvé qu'il pouvait y avoir un monde sans Dieu? Voilà, ça va être un des sujets dont nous pourrons parler, sachant que les prémices de ces sujets peuvent être des choses tout à fait banales dans votre vie. Pourquoi elle m'a dit ça, ou il m'a fait cette remarque, et j'ai été contrarié? Ça peut être un point de départ excellent. Pourquoi j'ai envie de me rapprocher de la spiritualité et j'ai des petites voix intérieures qui sabotent mon expérience, qui minimisent ou qui me culpabilisent. Voilà. Ou pourquoi on m'a fait une queue de poisson sur le périphérique et j'ai voulu me venger. Hein? Voilà, donc on pourra parler de l'état d'esprit issu de l'ego, de l'état d'esprit issu de l'amour et de notre voie humaine qui consiste à partir de l'un pour arriver à l'autre avec tous les intermédiaires entre les deux. Voilà pour cette introduction. Donc il n'y a pas d'expérience que vous puissiez citer maintenant qui soit hors sujet, puisque nous sommes tous, sans exception, concernés par la non-dualité, puisque nous sommes tous dans ce bain-là, dans ce bain de l'unité, rêvant d'autre chose, hein, rêvant d'exil de notre maison absolue. Donc même si vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'est cette maison d'amour, vous êtes encore, vous êtes éminemment dedans. Et vous êtes, par vos témoignages, vous manifestez l'appel à retourner dans cette unité-là, même de manière inconsciente. Puisqu'il y a une part de nous, qu'on appelle Saint-Esprit, Esprit pur, qui nous guide et nous dirige dans notre vie, et avec laquelle nous sommes reliés en permanence. Voilà, je cède la parole et le micro, s'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, ça peut être même un mot, une phrase, une question, un passage d'un livre qui pose question ou qui juste a besoin d'être lu. Tout est bienvenu, il n'y a pas de choses plus adéquates que d'autres. Ou une expérience personnelle dans votre vie. Juste une phrase, nous sommes 11, et 11 a une signification importante dans le monde de la spiritualité. C'est le 1 et le 1, la réunion du 1 et du 1.
Nous connaissons tous, nous vivons tous une expérience de paradoxe qui prend des millions, des milliards d'aspects différents et qui, ce paradoxe, c'est, on parle de non-dualité, on parle d'unité, on parle d'amour, on parle de plénitude. Et puis la vie humaine que nous connaissons apparaît comme pas du tout ça. Pas du tout. Maintenant qu'on regarde en face, ça. On a aussi l'impression que la non-dualité ou les livres dont on parle, les enseignements, c'est bien compliqué. Il y a des tas de choses à lire, des tas de choses à... des séminaires, des ateliers où on pourrait aller, il y aurait des choses à apprendre. Voilà l'apparence, un cours en miracle, 1300 pages, et puis des tas d'écrits qui viennent post-cours en miracle, et puis la Bhagavad Gita, le Tao Te Ching, des maîtres, Osho, Sri Aurobindo et compagnie, pour ceux qui sont plus là, mais ceux qui sont là, mais qui sont, bref, des auteurs connus, pas connus, bref, ça paraît bien compliqué. On va dans une librairie ésotérique et on voit des milliers d'ouvrages. Et nous voilà face à notre quotidien avec notre émotionnel, notre physique, notre mental et notre spirituel. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, j'ai l'impression d'être un corps physique. J'ai peur, j'ai pas peur, je me sens bien par moment. Et finalement, plus on se regarde, plus on dit, mais je mens, je suis pas clair, je cache. Je mets sous le tapis des choses que je ne veux pas voir. Et puis en même temps, il y a un appel. Donc il y a ce paradoxe avec un appel à s'ouvrir, permanent. Tout le monde veut s'ouvrir, et tout le monde a peur. Et tout le monde se sent coupable. Parce que cette culpabilité, d'ailleurs, qui est très très fortement développée dans un cours en miracle, Elle est omniprésente, elle est très très profonde, beaucoup plus énorme qu'elle ne paraît. Il y a une raison à tout ça. Il y a une raison. Voilà. Il y a une raison qui est au-delà des mots, et pourtant on emploie des mots. La raison, on peut dire, c'est une façon de parler, elle est qui nous sommes, couplée avec ce que nous avons choisi d'expérimenter. Voilà. Tout à l'heure, Avi nous parlait de Dieu, il n'y a que Dieu, rien d'autre, il n'y a rien comme une grande sphère, il n'y a rien à l'extérieur, tout ça c'est des images. La réalité non-duelle, elle est, on ne peut rien en dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est de la dualité. Si je dis Dieu, c'est encore duel, tout est duel. C'est le principe de la manifestation, c'est des formes. Il y a une forme et puis une autre forme. Donc il y a apparemment des différences et on va nommer tout. Je nomme une tasse, une étoile, une pulsion sexuelle, une théorie, une relation, un moustique. Je nomme les choses. Ça, c'est la dualité. C'est notre réalité. Alors, on a peut-être oublié, c'est vrai qu'on a tout à fait oublié, par jeu, on a joué, on a choisi de venir ici. Et pour beaucoup d'entre nous, et ceux qui écoutent cet enregistrement, ou qui sont autour de cette table, ils ne sont pas là par hasard. Et donc, beaucoup d'entre nous sommes vraiment extraterrestres, c'est-à-dire provenant d'autres mondes beaucoup moins duels que l'apparent de ce monde-ci, qui semble très duel, des mondes qui sont beaucoup plus, on va dire, consciemment proches de la lumière. Tout ça, c'est les manières duelles de parler, parce que de toute façon, tout est dualité ici, c'est une expérience duelle. Et donc, nous voilà dans un paradoxe avec des choses qui nous tiennent à cœur, dont on parle, un appel à l'amour, à s'ouvrir, un appel à la plénitude, à la joie, à l'abondance, au miracle, à la liberté, à l'expansion, au don, au partage. Et puis, un monde difficile, un monde de peur, un monde de jalousie, de frustration, de guerre, d'attaque et de défense. Et puis, c'est vraiment la règle. Si on regarde simplement ce qu'on enseigne aux enfants, partout, y compris avec la meilleure bonne volonté du monde, c'est « fais attention, tu vas te brûler, attention, ne fais pas ça, fais ce qu'on te demande ». Et donc, on apprend à l'enfant la peur. On lui apprend aussi la culpabilité tout de suite. « Non, c'est pas bien. Tu n'auras pas ton chocolat si tu fais pas ça. Tu n'es pas bien, tu es coupable. » Et ça va très loin, cette culpabilité. Une religion a même inventé le péché originel, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait, on est déjà coupable. C'est totalement absurde par rapport à qui on est. Mais en fait, ça vient de quoi? Ça vient justement de ces expériences incroyables, ce paradoxe dans lequel on baigne, où il y a en même temps qui nous sommes, la réalité, Dieu est tout ce qui est, et il n'y a que plénitude et amour. Et puis en même temps, il y a un vécu, une expérience duelle de séparation, c'est-à-dire de l'identification à un corps physique particulier avec un sexe masculin ou féminin. À une certaine époque, là aujourd'hui le 2 novembre 2013, dans l'après-midi, chez Avi à Romainville, ici autour d'une table où nous sommes 11. Voilà une réalité. Vous qui êtes derrière l'ordinateur, qui écoutez cet enregistrement, c'est votre réalité, vous êtes là dans une certaine pièce à un endroit. Et c'est comme ça pour tout le monde, pour les 7 milliards que nous sommes. C'est aussi comme ça à travers l'univers pour tous les extraterrestres, ou qui on veut, les anges, les archanges. Il y a une identité divine, il y a quelque chose qui dit « je », et puis il y a un décor, un conditionnement. Et ici, le conditionnement dans lequel on est, c'est un conditionnement extrêmement duel, très polarisé. Parce que cette planète sur laquelle nous sommes, qu'on appelle la petite planète bleue, on peut l'appeler ce qu'on veut, elle est dérisoire dans l'univers, hein. C'est dérisoire. C'est un petit grain de sable sur une plage immense à l'infini. Mais en même temps, son expérience ici, elle n'est pas dérisoire du tout. Elle est soigneusement planifiée par le plan divin pour jouer un jeu d'amour incroyable, où le libre arbitre n'a été jamais donné avec autant de force, où, voilà, on peut rêver ce qu'on veut. Tu veux la guerre? À la guerre. Tu veux la jalousie? T'as la jalousie. Tu veux la souffrance, le martyr, la... Vas-y. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est des bêtises, au sens de ça n'a pas de sens. Dans le cours en miracle, ils ont traduit le mot en anglais insane, qui veut dire fou, insensé, par insane. Insensé. C'est insensé, c'est-à-dire ça ne tient pas debout. Voilà. Alors, nous voici donc avec un paradoxe énorme, avec une expérience humaine où on est sans cesse attiré par un besoin de se défendre, d'amasser des richesses, de prendre des assurances, de essayer de plaire à quelqu'un, de faire attention à ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Et en même temps, un appel à aimer, c'est-à-dire à tout accueillir. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que le cours en miracle nous dit, le monde réel, le monde qui existe, éternel, et non menacé, et le monde irréel, le monde illusion, sont deux mondes totalement incompatibles. Vous ne pouvez pas voir les deux, on voit soit l'un, soit l'autre. Mais comme on a choisi une expérience pour venir ici faire cette expérience humaine, duel, donc le monde qu'on voit, c'est un monde duel. C'est le monde de la séparation. Ah mais c'est que ça change tout à ce moment-là. À ce moment-là, quand on commence à regarder vraiment ça en face, la culpabilité profonde qu'on avait commence à partir. Ça n'est qu'un jeu. Et si je me sens, si j'ai envie de cogner, si je sens que j'ai envie de tuer, si je me sens jaloux, si je sens que j'ai peur, que je m'angoisse, etc. Mais il y a des raisons. Mais bien sûr, j'ai choisi cette expérience de dualité. J'ai choisi, donc c'est ça qui vient en premier. C'est pour ça que c'est l'ego qui parle en premier, dans notre expérience humaine. Mais c'est tellement fort que même d'autres mondes, beaucoup plus proches de la lumière, sont passionnés par notre expérience, viennent nous aider. Et je peux vous dire qu'il y a plus de 2 pour 1, c'est-à-dire que plus de 15 milliards d'êtres par rapport à 7 milliards, qui aident concrètement la planète Terre, qui nous aident, qui sont là à nos côtés, qui écoutent cet enregistrement, qui sont là ici dans ce groupe, dans cette pièce ici, dans une communion amoureuse incroyable, un respect profond de notre expérience, une admiration aussi profonde, une passion pour ce que nous vivons ici. Alors que pour beaucoup d'entre nous, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des situations invraisemblables, c'est intolérable, etc. Donc voilà le paradoxe. Et donc, nous sommes à une époque, là, en 2013, dans ce début de troisième millénaire, après le fameux 21 décembre 2012, enfin bref, tout ça, nous sommes dans une époque de réveil où on regarde ça enfin en face. Parce que les énergies sont prêtes pour ça. Tout ça fait partie d'un plan général qui a été établi depuis l'origine de tout, on peut dire. Depuis l'origine de l'imagination du temps. C'est pour ça qu'en fait, il ne s'est rien passé. Le cours en miracle dit que l'instant où le Fils, c'est-à-dire le Fils, c'est la manière de Jésus de parler de l'expression du Père, de la manifestation du Père, de la création du Père ou de la source. Et c'est pour ça que le cours nous dit d'ailleurs que créer dans le monde réel, ce n'est pas projeter comme nous dans notre monde duel. Créer, c'est s'étendre. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu. Et que ce qui est vivant, ce que nous sommes, c'est l'extension de Dieu. Nous sommes la manifestation de Dieu. C'est ce que Jésus appelait le Fils de Dieu. Donc il n'y a que le Fils. Et donc ce Fils, il est là, mais il a choisi une expérience duel. Mais qui a choisi l'expérience ? Puisqu'il n'y a que Dieu, c'est forcément Dieu. Vous avez bien compris ce que je viens de dire, c'est fondamental. Parce qu'il n'y a que Dieu. Et donc, on peut dire aussi qu'il y a Dieu, et puis il y a, mais c'est une manière didactique de parler, il y a le Fils, c'est-à-dire l'expression du Père, l'expression de la vie, l'expression de la source. Et ça, c'est nous. Mais c'est nous, c'est aussi Dieu. C'est pour ça que Jésus disait ça, mais ça n'a pas été compris. Il disait, le Père et moi sommes un. Il disait aussi, de moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Ça veut dire, le petit personnage Jésus ne fait rien. Le petit personnage séparé ne fait rien. Comme la vague, toute seule, ne fait rien. La vague, c'est l'océan, et bon, la vague a un certain rôle, elle vient caresser la plage, elle se retire, etc. Et donc, notre paradoxe, parce que nous sommes vraiment dans un paradoxe fantastique, et c'est fascinant de commencer à le regarder vraiment en face, c'est de dire, mais c'est magnifique. Effectivement, je semble perdu. Effectivement, je me sens coupable, peut-être, ou je sais très bien ce que c'est que d'être coupable. Je sais très bien ce que c'est que d'avoir peur, et le cours nous dit d'ailleurs, la présence de la peur, c'est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces. Quelles propres forces ? Les forces du petit personnage que je crois séparer. qui est totalement impuissant. Alors ce petit personnage, il se bat, il essaye de faire quelque chose. Il fait une tour de Babel, il essaye d'avoir un peu de valeur, d'être connu par les autres. Et on apprend ça aux nos enfants, on se noie les uns les autres dans des illusions de puissance humaine. Ça n'a aucun sens par rapport à qui nous sommes. Mais on a choisi ce jeu, et on le regarde en face. Et donc on est dans un jeu qui paraît complètement fou, où en même temps on a tout fait pour fuir, pour s'amuser à ne pas être qui nous sommes, à s'imaginer être séparés, mais c'est impossible. C'est impossible d'être séparés, seulement on le sait très bien fait. Encore une fois, c'est très bien fait, c'est tellement bien fait, on le sait fait avec notre puissance divine, c'est fait avec deux ingrédients fondamentaux, l'identification au corps d'une part, et d'autre part, le temps. Et le temps illusoire, et nos physiciens quantiques sont en train de nous montrer que le temps n'existe pas. Seulement, le temps est imaginé, inventé d'une manière fascinante, remarquable, extrêmement complexe, et on a des preuves partout que le temps semble exister. Nos montres, nos horloges sont synchrones, on peut aller voir le travail de l'érosion sur les montagnes, dans les plaines, on peut étudier le temps dans son déroulement. Tout ça, c'est imaginé. C'est fantastique. Imaginez avec la puissance, par la puissance divine que nous sommes. Alors on me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en attendant, c'est bien gentil, mais en attendant, moi, je ne me sens pas bien. Si on se sent bien, ça va. Si vous vous sentez bien, mais c'est super. Un enfant, il est ravi. Il ne se pose pas les questions que nous posons ici. Un petit enfant de 2 ans, il est ravi. C'est pour ça que Jésus nous disait, redevenez comme les petits-enfants. Vous êtes heureux, ça ne vous intéresse pas ce qu'on raconte là, mais allez jouer. Faites autre chose. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tôt ou tard, il y a un appel profond à l'intérieur en disant, mais moi, je veux me réveiller. Moi, j'en ai marre de ça, parce que ça ne marche pas, cette histoire de séparation. Ça porte de la souffrance, ça porte de la culpabilité, de la peur, et je n'ai pas envie de ça. J'ai assez joué à ça. On a fait le tour de la question. Alors, on nous dit que dans l'univers, les guides d'autres extraterrestres sont fascinés par notre expérience et sont pleins de reconnaissance de ce que nous vivons. Ça a un sens. Ça dépasse notre entendement humain. Nous sommes en train de préparer, disons, la création de nouveaux mondes, de nouveaux mondes. Et donc, notre expérience humaine, elle est fondamentale pour l'univers. Très bien. On peut me dire aussi, mais en attendant, moi, je me réveille le matin et je suis face à moi-même tous les matins. J'ai envie d'être heureux. Qu'est-ce que je fais là, maintenant, dans mon petit conditionnement là? Parce qu'effectivement, notre conditionnement à chacun, il est dérisoire, il est tout petit. Même Obama, même un président, c'est tout petit. C'est rien du tout. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est là que c'est le phénomène de non-dualité, ce travail que nous faisons autour de cette table, il est fondamental parce que ça nous ramène à la clé, et la clé c'est qui nous sommes. Donc on a choisi une expérience duelle, s'amuser à ne pas être qui on est, à imaginer être séparé, et en fait c'est impossible. Mais comme c'est fait avec une grande puissance, on a vraiment l'impression d'être séparé. Et nos journaux, nos télévisions, nos médias, les gens partout, vous écoutez, vous allez dans les cafés, écoutez partout, écoutez. Ça parle de séparation, c'est-à-dire oh, le salaud il a fait ça, mais moi je suis pas d'accord, moi je pense que si, ça. C'est que de la dualité, c'est que des bêtises. Ça n'a aucun sens par rapport à la réalité. Mais c'est la réalité qui est vécue par la quasi-totalité d'entre nous. On a fait exprès. Donc on commence à avoir plein de compassion pour tout ça. Et on commence à comprendre que la seule porte de sortie, on peut dire, il n'y a pas de sortie, mais la vraie porte de sortie, c'est quoi? C'est qui nous sommes. Et c'est quoi ça? C'est quoi Dieu qui nous sommes? C'est l'amour. Et donc, dans ce paradoxe fantastique où je me sens mal, où je peux me sentir très mal, coupable, avoir des problèmes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je respire. On respire, c'est-à-dire j'accueille mon conditionnement humain, mon expérience humaine. Le souffle, la respiration commence à prendre une place centrale. Le fait de respirer déjà me détend, me permet de me laisser réaligner, et de laisser l'esprit que je suis me montrer. Avant ce groupe, j'ai tiré la leçon 107 du cours en miracle, qui montre bien que de nous-mêmes, on ne fait rien. Et cette leçon, c'est la suivante. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. C'est pas moi, avec mon petit ego, qui vais corriger les erreurs. Et dans tout le cours en miracle, toutes les leçons, à chaque fois, je demande à l'esprit de me montrer sa vision. Dans les premières leçons, par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Montre-moi. le cours nous explique pourquoi, par exemple, on n'a pas de problème, on croit en avoir, mais on n'en a pas. Il nous explique pourquoi, et ensuite, on va passer la journée à demander à l'esprit de nous le montrer. Donc, même ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas à me croire ou pas à me croire, si ça vous parle, et ça parle quelque part à votre cœur, c'est « je veux voir ça ». Qu'est-ce qu'il raconte Sylvain en ce moment? Mais ça m'intéresse, ça. Je veux le voir. Donc, j'arrête d'essayer de le faire avec mon mental, je lâche, je respire, je prends la situation où je suis maintenant, là, tout de suite, et j'accueille. Et qu'est-ce que je fais quand j'accueille? Mais j'aime, et donc je suis amour. Parce que l'amour, c'est l'accueil. La vie est accueil de tout. La vie est présence. Elle est non-jugement, forcément. Quand j'accueille, je ne juge pas. Donc, redevenez comme des petits-enfants, c'est ça. C'est arrêter, si vous pouvez, faites de juger. Oui, mais je peux pas arrêter, j'ai plein de jugements. Ok, d'accord, mais je note mes jugements, j'accueille mes jugements. Oui, mais j'ai peur. Ben, j'accueille mes peurs. Ah oui, d'accord, mais je me sens terriblement coupable, j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Là, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 100 ans, bref. J'ai raté, j'ai loupé, je me suis enclenché tout un karma négatif. J'arrête, j'admets ça, je reconnais. Oui, ça, c'est ma vision. C'est pas la vision de Dieu. Et le cours en miracle nous dit, Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Il ne peut pas changer d'avis parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu ne change pas d'avis par rapport à lui-même. Puisque nous sommes l'expression de Dieu, la manifestation de Dieu, nous sommes la vie, le vivant. Nous avons oublié ça. Bien, la vie, le vivant, ne peut pas se contredire elle-même. Mais elle ne peut pas aller contre elle-même, donc elle respecte. Donc notre expérience humaine est totalement respectée. Et que même les êtres, les 15 milliards d'êtres qui s'occupent d'aider la planète, ils respectent totalement notre expérience. Donc il y a un paradoxe, ils nous aident en même temps tout en respectant notre expérience. C'est pour ça que vous pouvez constater qu'on parle d'autorisation. Ils disent, nous pouvons faire ce à quoi nous sommes autorisés. Par quelle autorité? Par le Créateur, par qui nous sommes, par le Christ. Donc il y a une unité fondamentale de tout. Disons qu'il y a un jeu qui est joué entre nous tous, que ce soit avec des extraterrestres ou nous, ou que ce soit entre nous les 7 milliards, mais l'amour transcende tout. Et donc c'est ça la clé. C'est-à-dire que je suis en train de parler, mais si tout d'un coup j'arrête et je me dis, mais je rencontre telle personne, telle personne, telle personne, qui est cette personne? C'est le namasté, je reconnais qui tu es mon frère, ma sœur, tu es moi, nous sommes un. La séparation ne s'est jamais produite. Mais comment je vais faire pratiquement? Mais les gens ne croient pas à tout ça, ce que Sylvain est en train de raconter. Comment je vais faire moi dans mon milieu? Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Avin nous a cité les 5 phrases qui sont à la page 30. Du texte du cours, et la troisième phrase est une phrase clé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dirigé à tout instant. Tout est dirigé. Mais tout est dirigé dans le respect total de notre liberté. C'est pour ça qu'il y a des guerres apparentes, c'est pour ça qu'il y a des conflits apparents, c'est pour ça qu'il y a des Monsanto, des tas de choses et des abus de pouvoir. D'ailleurs, il n'y a pas que sur la planète, il y en a aussi dans tout l'univers. Parce qu'il y a un respect total. C'est comme si la conscience joue avec elle-même. Et la conscience s'amuse à dire, tiens, et si nous n'étions pas qui nous sommes? Grand éclat de rire, c'est impossible. C'est impossible, mais c'est tellement bien imaginé que... Et c'est pour ça que le cours nous dit, tout a commencé quand le Fils a oublié de rire à la pensée de séparation. Bonne blague, impossible. Alors c'est tellement fabuleux qui nous sommes, c'est tellement extraordinaire qu'on peut jouer, on peut s'amuser à faire semblant de se perdre dans un labyrinthe de peur, d'angoisse, de culpabilité, parce que il n'y a rien, tout ça c'est imaginé, ça n'existe pas. Mais en attendant, Sylvain, en attendant, on est dedans. On pense être dedans, donc on s'en occupe. Pourquoi on s'en occupe? Parce que il y a apparemment souffrance. Encore une fois, si quelqu'un dit mais moi je me sens bien, mais c'est parfait. Ben, va jouer, va à la pêche, va te balader, c'est bon. Fais ce que tu sens d'ailleurs, fais ce que tu sens maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit toujours. Tout est là, maintenant. Le passé ne grève absolument pas qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est infini. Donc, ça veut dire en clair que le passé ne grève absolument pas notre présent ni notre futur. Alors, on peut dire, oui, mais le passé, quand même, apporte notre conditionnement présent. C'est juste d'une certaine manière, absolument. C'est juste dans le choix d'expérience que nous avons choisi de jouer. Absolument. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'à tout instant, on peut décider par l'amour, pour l'amour, dans l'amour. Et là, c'est infini. C'est instantané, c'est immédiat. Parce que c'est qui nous sommes. Donc, dans mon intervention, j'ai commencé à parler de ce paradoxe dans lequel nous sommes. C'est vrai, il y a un paradoxe formidable. Quelque chose qui paraît invraisemblable, fou. C'est cette dualité, cette difficulté, cette lourdeur. Parce que c'est souvent comme ça que ça paraît, c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments très légers, il y a des moments merveilleux, bien sûr, magnifiques. Et puis la réalité divine qui est extraordinaire, fabuleuse, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien justement, c'est cette réalité. C'est cette réalité que je ne lâche plus. Et je décide, c'est ça que je veux. Et dans le grand texte du cours, qui fait plus de 700 pages, qui fait 31 chapitres, au chapitre 21, au sous-chapitre 7, là, on est arrivé à un point crucial de notre cours, comme il dit. Ce sous-chapitre s'intitule « La dernière question restée sans réponse ». Alors il dit, bon, des questions, vous vous êtes tous posé des questions. Est-ce que je veux un monde qui me gère et qui me gère ou que je gère? C'est-à-dire, est-ce que je suis dominé par le monde? Est-ce que je suis victime ou non? Je suis maître de mon monde. Est-ce que je veux un monde dans lequel je n'ai pas d'ennemis, je suis dans la paix, dans la liberté? Bien sûr, vous avez répondu à ces questions. Et bien sûr, on va dire, ben oui, j'ai répondu oui. Évidemment, tout le monde répond oui. Seulement, nous dit le coup, vous avez changé d'avis. Vous avez changé d'avis. Comment j'ai changé d'avis? Eh oui. Mais il y a une question, c'est la dernière question restée sans réponse. Et si vous y répondez, vous ne changerez plus d'avis. Et cette question, elle est simple. Ça paraît même peut-être trop simple. Cette question, c'est est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Et ça reprend le jeu. J'ai nié que tout est un. J'ai nié que tout est plénitude, que tout est abondance, que l'ombre n'existe pas, les ténèbres n'existent pas. La peur et la culpabilité n'existent pas, la souffrance n'existe pas, c'est inventé, imaginé. J'ai nié ça. Est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Et dans l'édition originale du cours, le « parce que » est mis en italique pour bien souligner « parce que c'est la vérité ». Donc je m'accroche à la vérité. Est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? J'ai nié que tout est un. Et si je réponds à la question, oui, vraiment, c'est ça que je veux. À ce moment-là, le chemin part, ça y est, on est en route. On est en route pour le réveil. Et on ne change plus d'avis. On ne change plus d'avis. En anglais, le terme, c'est « to change one's mind », changer d'avis. Ça a été traduit par « changer d'état d'esprit ». Mais c'est en fait, en français, on va dire « je change d'avis ». Non. Comme Dieu n'a pas changé d'état d'esprit à son sujet, Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Et là, on ne change plus d'avis par rapport à qui nous sommes. Donc, quand nous nous trouvons devant un frère, une sœur, ou une situation, ou n'importe quoi, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je vois cette situation? Est-ce que je vais la voir avec les yeux de la peur, de la séparation, de l'angoisse, qu'on m'a appris depuis que je suis petit? Il faut se battre, il faut se défendre, il faut se protéger. Bien sûr, je nie pas mes peurs. Je nie pas mon angoisse, je nie pas mon sentiment de culpabilité. Mais qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je choisis maintenant, là? Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je choisis là le 2 décembre 2013, aujourd'hui, cet après-midi, ici, ensemble autour de cette table? Parce que c'est toujours maintenant que ça se passe. On ne vit que le présent. Et comme dit le cours, à chaque fois, tu peux rechoisir. Hein?
Novembre.
Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Décembre, ouais, ça y est, j'ai sauté un mot. Bon. Qu'est-ce que je choisis? Maintenant. Oui, mais j'y arrive pas. Mais il ne s'agit pas d'y arriver. Voilà encore une erreur. Il y a rien, on n'arrive nulle part, puisqu'on va vers nous-mêmes, vers ce que nous sommes. C'est une question d'intention, ce n'est pas une question de réussite. Il n'y a rien à réussir, puisque je suis déjà tout, puisque tout le monde est déjà tout, puisqu'il n'y a que Dieu. Est-ce que Dieu a réussi à quelque chose? D'ailleurs, ça peut vous aider, ça peut nous aider de, à chaque fois qu'on a une question, en disant, mais pour Dieu, c'est quoi ça? Est-ce que Dieu a mal aux dents? Est-ce que Dieu a un problème physique? Est-ce que Dieu se sent coupable? Oui, mais moi, je me sens coupable. Oui, d'accord, mais ça, c'est le moi que j'imagine. Mais c'est pas comme ça que Dieu me voit. Parce qu'il n'y a que Dieu, donc Dieu ne voit que lui-même en tout le monde, en chacun. Encore une fois, c'est ce que dit Cour, Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet, et au sujet de personne. Et même les grands méchants, là, les grands violeurs, tout ça, c'est quoi ça? C'est des personnages qui sont d'une pièce de théâtre. Mais qui joue la pièce? L'esprit que nous sommes. Il n'y a qu'un seul acteur. Il y a une célèbre phrase d'ailleurs qui le dit bien, c'est à la leçon 135 du cours, c'est une leçon très longue qui fait 4 pages, mais vers les 2/3 de la leçon, il y a cette phrase. Que ne pourrais-tu accepter? Que ne pourrais-tu accepter? Si seulement tu savais que tout ce qui se passe, tout événement passé, présent et à venir, est planifié avec amour et bienveillance par quelqu'un, en anglais c'est one avec un O majuscule, par l'un dont le seul but est ton bien. C'est l'esprit d'amour, c'est ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout est planifié avec amour et bienveillance? Alors on va dire comment, mais les guerres c'est planifié, les accidents, etc. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est voulu comme expérience. Oui, mais ça fait souffrir, ça crée... Oui, mais il y a un désir de souffrir. Comment il y a un désir de souffrir? C'est pas possible. Eh bien si. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de culpabilité, c'est que il y a une partie en nous qui se sent tellement coupable, qui veut tellement avoir raison, qu'on préfère mourir plutôt que... Et le cours explique très bien ça. C'est très fort de dire ça, mais pourtant c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait l'apologie du martyr dans les religions. Mais ça n'a aucun sens. On fait l'apologie de la souffrance, en disant, on l'a bien mérité. On va sacrifier. Et Jésus est venu pour payer un prix. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour payer, pour racheter les péchés. Ça n'a aucun sens. Mais ça vient de la croyance à la culpabilité. C'est tout à fait... entre guillemets, normal dans la puissance de l'illusion dans laquelle nous sommes mis. Vous voyez, donc tout ça a un sens, c'est un jeu qui est très difficile, c'est un jeu qui est, on va dire, courageux, incroyable, et pourtant, il a été fait en pleine connaissance de cause à l'origine, avec un énorme éclat de rire en disant, mais c'est fabuleux, on peut jouer à tout ce qu'on veut, ça ne changera rien à qui nous sommes. Et c'est là que nous sommes en train de faire un travail fantastique, nous sommes en train de nous réveiller au milieu de ce monde duel, et nous réveillons dans l'amour, dans la reconnaissance des autres, on pose des armes et on dit, mais on s'aime, mais je veux te voir, mais je veux vraiment changer d'état d'esprit. Je veux vraiment ouvrir mes yeux, te regarder et voir l'amour que tu es. C'est ce que nous dit le cours en disant, ton frère est ton sauveur. Il te permet à chaque fois de rechoisir. Au lieu de le voir, j'ai cette haine vis-à-vis de cette personne, ou qui m'agace, ou j'ai cette peur par rapport à cette autre personne, je veux voir différemment. Donc je demande à l'esprit de me le montrer. Parce qu'évidemment, on va dire, oui, mais j'y arrive pas. Oui, bien sûr qu'il n'y arrive pas. C'est pour ça que le cours, d'ailleurs, nous dit très clairement, il nous dit, de l'intérieur du système de pensée de l'ego dans lequel tu t'es plongé, de l'intérieur de ce système, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Il te faut quelque chose de l'extérieur du système. Ce quelque chose, il l'appelle le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit... Il n'y a que le Saint-Esprit, puisque tout est un. Mais dans notre imagination duelle, cet artifice est utilisé. C'est pour ça, par exemple, que dans mon livre, Au-delà d'un courant miracle, j'ai été guidé à écrire cette phrase qui est toute simple, mais que j'aime beaucoup. Je vais utiliser l'illusion de demander de l'aide à quelqu'un d'autre que moi-même. Je vais utiliser l'illusion de demander de l'aide à quelqu'un d'autre que moi-même. Évidemment, moi-même, c'est moi-même avec un M majuscule. C'est le divin que je suis, le Christ que nous sommes tous. Je demande de l'aide à ça, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je dis, tiens, Saint-Esprit, aide-moi. Père, aide-moi. Et Jésus parlait au Père comme ça. Et pourtant, il disait, le Père et moi sommes un. Vous voyez le paradoxe? Donc, effectivement, on est dans un paradoxe énorme, et c'est le fait de le regarder en face, enfin, de nous y confronter, qui permet de le transcender, qui permet de vivre le ciel sur la terre. Où on continue à avoir le sentiment d'être un corps particulier, on a le ressenti d'avoir un sexe, masculin ou féminin, d'avoir faim, de ne pas avoir faim, de sentir plus ou moins bien, d'avoir des sensations physiques, émotionnelles, mentales. D'ailleurs, l'émotionnel commence à devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus une danse. Ça devient une danse amoureuse. Et nous sommes en train de nous réveiller, justement, et nous allons continuer à vivre sur cette planète en dansant d'amour, en pleurant d'amour souvent, en nous embrassant les uns les autres et en étant complètement au-delà de ce que peut, en expérimentant, disons, l'amour, qui est complètement au-delà des mots, de ce que peut en dire, de ce qu'on peut en dire. C'est pour ça que certains qui écoutent, qui sont en train d'écouter ce qui est dit là, ils peuvent ressentir dans leur cœur tout d'un coup une certaine émotion, quelque chose. Et c'est juste. À chaque fois que vous ressentez ou nous ressentons une émotion d'amour, c'est juste parce que c'est qui nous sommes. Et nous sommes qu'amour et rien d'autre. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur un petit travail, mais c'est l'heure maintenant de regarder la vérité en face et, comme des enfants émerveillés, de l'accueillir, c'est tout. Et l'accueillir, c'est aimer. Donc c'est simple. C'est très simple. D'ailleurs, le cours en miracle le dit, ce cours est simple, mais il est difficile. Il est simple parce que le message non dual est extrêmement simple. C'est tout et un. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. Il n'y a que l'amour, le reste est imaginé. La peur, la culpabilité, la souffrance, la douleur. Oui, la douleur est imaginée. Comment la douleur est imaginée? Mais attendez, oui, mais attendez, on est dans une expérience très bien imaginée. Donc effectivement, il y a apparemment douleur. On reçoit un choc, on a mal, c'est désagréable. Donc, temporairement, on est aidé pour respirer, se détendre, pour avancer, peu à peu retrouver des états beaucoup plus paisibles, pour nous aider peu à peu à transcender tout ça. Tout ça prend du temps. Tout à l'heure, Avi nous rappelait la fin de la courte introduction du cours en miracle. Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui est très frustrant pour l'ego, c'est qu'on ne peut pas maîtriser l'éveil. On peut simplement s'ouvrir dans l'instant en disant « Je choisis ce que je veux maintenant ». Avant, je me suis amusé à la séparation. Maintenant, je choisis l'amour, je choisis l'unité de toutes choses, je choisis la vérité. Est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Eh bien, oui, c'est ce que je décide. Oui, mais par moment, eh bien, je glisse, je vais oublier. Oui, d'accord, oui, ça fait rien, mais je peux toujours rechoisir. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, c'est un processus qui, pour certains, va encore prendre de nombreuses vies. Pour d'autres, beaucoup moins. Et pour certains, c'est la dernière vie. À ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir toujours évolution. Comme dit le cours en miracle, nous allons vers un rêve heureux. Et quand le cours parle de rêve heureux, c'est vraiment heureux, c'est incroyable, c'est magnifique. Sur cette planète, on va rêver, mais alors avec une magnificence, une joie, mais absolument indescriptible. Mais c'est toujours un rêve. Ça ne fait rien. Je fais partie de ce jeu. Et si c'est la joie, mais on éclate de rire, c'est tout ce que nous voulons. Et c'est ce que nous dit le cours en disant, vous allez maintenant vivre un rêve heureux en étant des étudiants heureux. Et on est toujours étudiants. On dit que la différence entre un maître et un étudiant, elle est simple. C'est que le maître, il sait qu'il est toujours étudiant. Toujours. Alors que l'étudiant pense savoir quelque chose. L'évolution n'est jamais finie. On est au-delà de tout ce qui peut être dit. Et notre extension est infinie. C'est l'extension de Dieu, de la source de la création. Et ça, c'est amour. Les mots que je viens d'employer sont rien. Mais l'expérience que vous êtes amené à en faire de plus en, à faire de plus en plus au sujet, par ces mots, au sujet de ces mots, ça c'est vous ça. C'est ça qui vous montre que ces mots ont un sens. C'est ce que dit le courant miracle d'ailleurs dans le livre d'exercice. Au début du livre, il dit les concepts qui vont être montrés ici peuvent par moments vous choquer ou vous intriguer, etc. Vous êtes invité à ne pas les rejeter complètement. Mais c'est leur mise en pratique qui va vous montrer qu'ils ont un sens. Et donc c'est la mise en pratique de l'amour maintenant, ici et maintenant, parce que c'est toujours ici et maintenant, c'est la mise en pratique de l'amour qui nous permet de montrer, qui nous montre vraiment que ce que nous partageons ici a un sens. Et ça va même beaucoup plus loin de ça, beaucoup plus loin que ça. C'est tout ce que notre monde cherche. Tout le monde a soif de joie, de bonheur, de guérison, de miracle et d'harmonie. Eh bien, ça vient par une nouvelle conscience. Qu'on peut appeler non duel, mais ça, c'est un mot. C'est pas important. Mais c'est la conscience de l'amour vécu.
Je n'ai pas à me soucier de, ni de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, puisque celui qui m'a envoyé va me guider. Et je sens mon cœur qui bat la chamade. Alors la non-dualité, on a dit que ça pouvait se résumer à deux mots, Dieu est, ou bien deux autres mots, je suis. Ou bien si on en rajoute un, je suis Dieu. Lorsqu'on prononce « je suis », c'est la part divine que nous sommes, que je suis. Qui est là pour m'insuffler ce que je dois dire, ce que je dois faire. Qui est là pour se révéler de jour en jour. À l'aide de lecture. Et qui depuis la compréhension intellectuelle va progressivement descendre dans notre profondeur pour s'intégrer au plus profond de nos cellules et se manifester dans la matière. C'est le « je suis », cette part divine qui s'exprime. Dans la matière. C'est amusant, je ne sens plus mon cœur qui bat la chamade. C'est comme si c'était calmé. Dans la vie impersonnelle, dans la première page, il y a une phrase sur laquelle, puisque c'est une invitation à chaque instant à intégrer, laisser s'intégrer la vérité en nous, eh bien, il y a dès la première page, j'ai refermé le livre. En anglais, cette phrase sur laquelle je me suis arrêtée, « Be still and know I am God ». Et comme un mantra, ça peut être répété. Afin que l'assimilation se fasse à tous les niveaux et continue de se faire. Oui, be still and know I am God. Sois tranquille, sois calme et sache, je suis Dieu. Voilà, c'est une invitation à écouter ce cœur qui bat la chamade et puis à écouter ce cœur qui se calme progressivement. C'est une invitation à se poser, à observer l'instant présent, déposer tout ce qui peut encombrer pour laisser la vérité s'intérioriser en nous. C'est une vérité qui dépasse notre corps physique. D'ailleurs, dans un courant miracle, une des leçons, je ne retiens pas les numéros, j'ai déjà du mal à retenir quoi que ce soit. Et, en tout cas, il y a une phrase que j'ai pu me répéter souvent parce que je l'ai trouvée tellement juste. Je ne suis pas un corps, je suis libre. car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Voilà, je ne suis pas un corps avec cette impression limitative de souffrir. De vieillir, de mourir. Je suis libre, je suis éternel, je suis infini. Je ne suis que voué à m'étendre, c'est-à-dire à sentir comment je suis large, infini, lumière. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et alors ça, j'adore. Je suis encore. Ça veut dire que je suis toujours. Rien n'a changé. Même si l'illusion peut me faire croire que la séparation a eu lieu, je suis encore tel que Dieu m'a créé. C'est-à-dire je suis intact. Je suis à l'identique de l'origine. Et là, c'est le passage lyrique dont parlait Avi, comme cette douce mélodie qui revient à l'esprit. C'est cette connexion originelle qui se fait progressivement. Il n'y a rien besoin de faire, ça se fait tout seul, en temps et en heure. C'est magique, bah oui. Comme tout ce qui ne peut pas être expliqué, parce que ça nous dépasse totalement, ça dépasse notre petit moi, parce qu'on est bien plus que ça. C'est le miracle de la création. Ce jeu simple et si subtil du retour à la maison qui aide à comprendre que de constater, de sentir que nous ne sommes qu'amour, que tout est amour. Et j'ai commencé par lire un courant miracle j'ai dévoré les 700 pages. Après, comme je le sens, donc j'avais envie de lire la dernière partie. Et puis, je m'attarde. Je prends mon temps pour lire les 365 jours. Je suis plus pressée. Et puis après, j'ai lu « Au-delà d'un courant miracle » et je me suis dit « Waouh !» Certains trouvent que un courant miracle, c'est indigeste, c'est trop copieux, c'est trop long, c'est trop compliqué. Et quand j'ai lu « Au-delà d'un courant miracle », je me suis dit « Waouh, ça peut être la solution pour beaucoup de personnes que de commencer par ce livre, parce que la différence que j'ai sentie avec au-delà d'un courant miracle, avec un courant miracle, c'est que un courant miracle, c'est une canalisation. Donc, c'est écrit par un humain, mais c'est reçu depuis la lumière. Enfin, quand je dis c'est reçu depuis la lumière, c'est-à-dire que c'est la lumière qui s'exprime. Ça se passe à un autre niveau. Ça vient d'une autre dimension. Alors qu'au-delà d'un cours en miracle, même si c'est un esprit de pure lumière, c'est écrit par quelqu'un qui vit dans notre dimension. Et c'est expliqué différemment. Je dirais d'un point de vue, pour schématiser, d'un point de vue humain. Et c'est peut-être plus facile à aborder.
Bonjour les amis, à ceux qui sont présents et à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors moi j'ai tiré un petit papier qui dit « Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois ». Waouh. Moi j'ai envie de dire que dans ma vie il y a un avant et un après. Un avant et un après cours en miracle. Je l'ai découvert il y a 6 ans environ. Et jusque-là, ma vie était basée, construite sur la peur. J'étais au service de la peur. Je respirais dans la peur, je vivais dans la peur, je voyais la peur était partout. Et j'avais construit une forteresse, une protection dans laquelle je m'étais complètement emprisonnée. Et j'ai fabriqué une maladie dite incurable pour laquelle le corps médical m'allouait 3 mois de vie. Et j'ai mis en pratique l'enseignement de Jésus, donc du cours en miracle. Et ça a complètement basculé, ça a transformé ma vie. Ça a... J'ai envie de vous dire aujourd'hui que le cours en miracle, mais c'est tellement joyeux, c'est tellement vivant, c'est tellement vibrant, c'est tellement... Moi, j'ai retrouvé mon humour, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé du sens, ça c'est sûr. Je pense aujourd'hui que les miracles, mais c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose qui arrive d'instant en instant si on ne l'empêche pas. C'est pas ça vient une fois par an, ça peut être là constamment. Et à chaque instant, je remercie d'être en vie, je remercie d'avoir accès, je remercie de ne pas empêcher cette joie là, cette vie là, ce miracle là en fait. Quand j'ai pris la décision de, j'ai frôlé la mort, et quand j'ai pris la décision de vivre, quand j'ai fait ce choix là, et que j'ai confié ma vie au Saint-Esprit, je lui ai dit bon. Moi, j'ai fabriqué la maladie, mais certainement, toi, tu sais faire autre chose et autrement. Et quand on l'a expérimenté une fois, quand on sait que de demander de voir et de percevoir autrement, c'est possible si on laisse faire, si on laisse juste être. Alors ça a demandé 50 ans pour ce qui me concerne, mais ça peut se faire en une fraction de seconde. Il n'y a pas besoin en fait ni de faire un cancer, ni d'attendre 50 ans. Ça peut être instantané. Et ça, je l'expérimente maintenant de jour en jour. C'est pas que le matin quand je me réveille, je lui dis « Écoute, je te confie ma journée ». Certes, mais ce qui est merveilleux pour moi aujourd'hui et ce qui tient du miracle, c'est de savoir que d'instant en instant, de seconde en seconde, j'ai la possibilité de renouveler le choix que je viens de faire ou d'en changer. Et ça, c'est le miracle. Ça veut dire que si une situation arrive, me rencontre et qu'apparemment elle me dérange, Elle me dérange plus comme avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous ces petits dérangements, ces pseudo-dérangements, ces illusions de dérangement, en fait, je les accueille et tout de suite, c'est instantané. Je les confie au Saint-Esprit. Mais si toutefois, c'est encore l'ego qui est là et qui veut s'en arranger, je sais qu'à la seconde qui va suivre, le Saint-Esprit peut prendre le relais. Et ça, c'est absolument cadeau, c'est extraordinaire. J'ai cette certitude aujourd'hui que le miracle est possible et que je peux effectivement voir autrement, voir autre chose. Alors j'ai fait l'expérience de « je suis rien et je suis tout ». J'ai fait l'expérience de « c'est le fond qui est important, c'est pas la forme ». Certes, j'ai traversé la maladie, je l'ai vécu dans mon corps, je l'ai vécu, mais dans cet instant présent, dans cette conscience présente, dans cette perception du Saint-Esprit, la guérison a pu s'installer, le miracle a pu s'accomplir, et l'amour, en fait, a pris la place. Et c'est ça. La peur a fabriqué la maladie, le Saint-Esprit a co-créé, enfin, j'ai co-créé avec le Saint-Esprit la guérison, et c'est l'amour qui guérit. Et la maladie, c'est juste aujourd'hui, j'ai envie de dire, un cadeau, un potentiel retour à l'amour, un potentiel retour à la maison, avec aujourd'hui une force, avec une puissance. Aujourd'hui, j'ai complètement abandonné le contrôle. Avant, je voulais tout contrôler, tout vérifier, tout savoir, tout comprendre. J'avais la tête qui allait exploser, j'étais 24 heures sur 24 dans la tête. J'avais envie de changer de tête. Je la supportais plus, ma tête. Elle était pleine. Et j'ai compris que... Enfin, j'ai compris, je ne sais pas si j'ai compris d'ailleurs, mais aujourd'hui, je pense que c'est tellement important de me présenter à chaque instant vide devant le Saint-Esprit, devant Dieu, pour qu'il me donne sa vision, sa pensée, sa perception. Voilà, c'est ça, sa pensée, puisque ce que je manifeste, elle est faite de ma pensée, de ma croyance. Et si je lui confie, ne serait-ce que ça, Saint-Esprit, remplis-moi de ta pensée, rien que ça, et ça change tout. Ça change tout parce que ça change la cause. Et je suis la cause, en fait. Et aujourd'hui, vraiment, je suis tellement pleine de gratitude. Pendant quelques temps, j'ai été immobilisée, je ne pouvais pas venir ici chez Avi. Et j'écoutais les enregistrements du cours et je lisais le merveilleux livre qui a vraiment, vraiment changé ma vie. Aujourd'hui, je suis venue simplement ne serait-ce que dire merci. J'ai appris avec le cours à dire merci. Merci, c'est comme ça que commence ma journée, c'est comme ça que commence mes chaque respiration. Et je suis vraiment, vraiment heureuse d'être là. Je me réjouis d'être là avec vous ce soir. Maintenant, ma vie, tout a changé dans ma vie. J'ai changé de métier, j'ai tout lâché, tous les domaines ont complètement été revisités, réinventés. Aujourd'hui, je j'aime pas le terme de conférence, mais je témoigne de la fabrication de la maladie et de la co-création de la guérison. J'explique comment faire et comment défaire. J'ai l'impression que ma vie ne m'appartient plus. En même temps, j'ai l'impression d'être tellement là, tellement présente, tellement vivante, tellement pas moi et tellement moi en même temps. Enfin, c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, la volonté déchaînée m'a complètement quittée et la vie me rencontre en fait. Les gens, les situations viennent à moi, elles me rencontrent et je me rends compte que il n'y a plus qu'à dire oui en fait. Il n'y a plus qu'à dire oui à la vie. Alors ça paraît très simple. Quelquefois ça me paraît très compliqué. Et en même temps si facile quoi. Voilà donc... Je vais conclure en disant que il n'y a pas photo entre ma vie d'avant qui était construite sur la peur et cette vie d'aujourd'hui qui me montre que derrière l'apparence, derrière l'illusion, il y a l'essentiel qui est ce grand tout qui est le fond en fait et qui est l'amour. Merci beaucoup. Thank you. Mon voisin de gauche m'invite à lire un petit papier qui dit « Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. » Merci.
Merci Raymond une fois de plus pour ton témoignage et qui touche le cœur et qui vient du cœur. Et tu disais tout à l'heure que les miracles, effectivement, dans les miracles se produisent. Dans les 50 principes des miracles au début, il est dit « Les miracles sont naturels. Lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. » Qu'est-ce qui a été faussé? C'est notre perception, c'est tout. Et en fait, les miracles, dans le monde divin, il n'y a pas de miracle. Dans le monde réel, il n'y a pas de miracle. Les miracles, c'est quelque chose qui se produit ici, dans ce monde. Et le cours nous dit au début, dans les 50 principes, que les miracles, on peut dire qu'ils sont vrais parce qu'ils proviennent de l'amour. Et il dit aussi que tout ce qui provient de l'amour est un miracle. Et nous sommes un miracle, puisque nous provenons de l'amour. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est des questions de termes. Et puis voilà, on peut parler comme ça, dire beaucoup de choses. C'est très bien, c'est utilisé. Mais effectivement, si c'est pas mis en pratique, ça reste intellectuel. L'intellect est utilisé. Et c'est quelque chose qui est là, et on peut pas avoir de réponse. Tout à l'heure, Odile a parlé du livre que j'ai écrit avec Phoebe. En 1988, au-delà d'un courant miracle, j'étais à San Francisco chez elle, j'étais arrivé un soir, pour une nuit, je suis resté un an, on n'a jamais rien décidé. Au bout de 3 semaines, elle commence à me dire, Jésus est venu. Il est venu dans mon bain, il m'a parlé, il a dit voilà, et puis ceci, cela. Et j'ai dit, note ce que tu écris et date. Depuis ce temps-là, elle a toujours daté, Et elle écrivait sur des bouts de papier avec un stylo rouge, des petits morceaux de papier déchirés, et je les mettais dans un classeur. Elle écrivait quelques mots comme ça. Et puis, un soir, on était en train de dîner, ou après le dîner, je ne sais pas pendant le dîner, souvent je répondais aussi par un petit mot. Et alors, elle écrit le mot suivant. Il y a ceux d'entre nous que l'esprit persuade avec douceur de passer au-delà d'un courant miracle. Le temps est venu pour nous de passer au-delà du cours obligatoire pour exprimer la vérité de façon nouvelle. À présent, la vraie connaissance est comprise. Ceci est au-delà de tous les mots. Cependant, des mots sont encore utilisés. Lorsque j'ai rédigé le livre et que j'ai répondu aux questions que Yeshua avait posées, effectivement, je devais écrire la plus grosse partie du livre, j'ai été guidé à mettre ce que je viens de dire là en avant-propos. Et il est aussi sur la 4e de couverture au dos du livre, je l'ai ressorti, j'ai demandé à Phoebe de le remettre quand on a fait la mise en page. Si je mentionne ça, c'est que j'étais touché et surpris que Odile parle de au-delà d'un courant miracle. C'est quelque chose de nouveau. C'est un livre qui a été mis sous cloche pendant 23 ans. Il a écrit en 88 en anglais, l'écrivait en anglais, Beyond the Course in Miracles. Et ensuite, je suis rentré en France. Il a été fini d'écrire le 14 mars. Pratiquement, il a dû être écrit en 6 semaines. Mais pendant un certain temps, j'écrivais pas. Et puis c'est un jour, tout d'un coup, j'ai senti de commencer à écrire quelques lignes, et puis ça a suivi. Et ce que Odile a vu, elle nous a partagé tout à l'heure, c'est que c'est un livre écrit là, et j'étais surpris parce que je savais que c'est écrit par un humain, par deux êtres humains, un homme et une femme. Et c'est moi qui écris la plus grosse partie du livre, et c'est comme ça que Jésus nous a demandé de faire. Je savais que la voix de Phoebe pouvait prendre n'importe quel livre comme un courant miracle. Elle canalisait extrêmement bien. Je savais très bien qu'elle pouvait prendre en dictée intérieure tout livre. Et donc, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je ne comprenais pas. Et j'ai vu ce livre, je l'ai observé qu'il s'écrivait. Et quand il était terminé, donc en mars, je vous passe les détails, mais on l'a apporté à Judy Scotch, à la fondation qui publie le cours en miracle. Judy était passionnée par ce livre. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'ai dû faire quelques centaines de polycopies à l'époque en français. Je l'ai traduit en français. C'était mes propres mots, donc c'était pas très difficile. Et puis voilà. Et puis, à partir de 1990-91, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Et ce n'est qu'en 2011, il y a 2 ans, quand j'étais à San Francisco pour la conférence internationale Un cours en miracle, nous étions 500 à San Francisco, dans un grand Holiday Inn. Et c'est là que, d'une manière absolument magique, le livre est ressorti avec une énergie considérable. J'ai dû en parler à ceux qui étaient présents et j'ai reçu l'information que c'était l'heure de le publier. Donc j'ai téléphoné à Phoebe qui était à Santa Fe et elle était en larmes. D'habitude elle ne part pas du tout pour ce genre de choses-là, mais elle a senti l'énergie. Et tout à l'heure, Odile en parlait, et pour moi c'est un mystère parce que les mots on les connaît, mais il y a une énergie nouvelle là, il y a quelque chose qui fait partie du jeu général. Bien sûr c'est un livre parmi de nombreux autres livres, mais il y a quelque chose, et il y a quelque chose qui est important, c'est un livre qui est écrit par 2 personnes, un homme et une femme. Et maintenant, de plus en plus, on a ça, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Ici, c'est un groupe, on est ensemble. Et on a des relations, et le cours miracle nous dit toujours ton frère et ton sauveur. Il nous parle de notre relation, pas nos relations, notre relation. Il dit ta relation, au singulier. C'est toujours la même. C'est toujours un choix qu'on a d'avoir une relation avec n'importe qui, avec quelqu'un qui est là face à nous, ou auquel on pense, soit dans l'amour, soit dans la peur. Voilà, c'est ça, c'est toujours l'amour ou la peur. Et donc ce livre de l'Un cours en miracle, pour moi, j'ai l'impression que les mots, ben, on les connaît, et c'est drôle parce que ce matin, j'avais l'intuition d'en parler, et j'ai fait une vidéo avec Ilou Massé il y a 4 semaines, rapidement au Salon Zen, le samedi 5, octobre, et j'ai parlé de ce livre, à ma surprise. Et c'est même le seul livre que Lilou a emporté chez elle après l'interview, après la vidéo, qui va être mise en ligne d'ici 8-10 jours. Et c'est drôle, j'ai parlé de ce livre, comme si c'est l'heure maintenant. Et j'ai envie de dire, mais ce livre, voilà, c'est des mots, on les connaît. C'est des énergies, c'est nouveau. Et donc, on n'explique pas. Voilà, c'est comme ça. Et quand, il y a 2 ans, on s'est mis à... J'ai dû le rechercher chez moi. Phoebe m'a dit, mais où est le livre? J'ai dit, écoute, je l'ai là, il est là. Et donc j'ai été le tirer de tiroir qui était chez moi, où je n'avais pas ouvert depuis 15 ou 17 ans. Je savais très bien le livre, je connais toutes les phrases, bien sûr, mais j'en parlais plus, on n'en parlait plus jamais. Et j'ai dit à Phoebe, mais moi le livre, je peux le réécrire, parce que finalement... Non, et on a demandé à Jésus, parce que quand on a, à chaque fois qu'on travaille, à chaque fois on écoute. C'est ce qu'on est tous invités à faire, quand on a des décisions à prendre, on écoute. Qu'est-ce que j'ai à faire là? Et quand on écoute dans l'amour et dans la confiance, on a toujours des réponses. Et la réponse est venue instantanément. Le livre est parfait tel qu'il est. Il dit, ok, il ne faut pas m'en dire plus. Bon, on le publie. Mais on a eu comme instruction de ne pas le confier à un éditeur. C'est pour ça qu'il est disponible que sur Amazon. Très bien, c'est comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un livre, et le premier chapitre, Phoebe m'avait dit, je reçois comme instruction que c'est moi, Phoebe, qui vais écrire le premier chapitre. Il a trait à la façon dont le livre est écrit. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a écrit ce chapitre en une journée. Il fait 11 pages. Elle l'a pris par sa voix intérieure. Elle se guide, elle se branche et elle l'a écrit comme ça. J'attendais ce chapitre pendant tout le temps où j'écrivais la grosse partie du livre. Je répondais aux 35 questions des chapitres centraux. Questions qui avaient été posées par Yeshua à l'époque et qu'elle avait reçues en canonisation, bien sûr. Mais c'était moi qui devais écrire. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça a été écrit et j'attendais ce chapitre qu'elle écrivait. Elle ne l'écrivait jamais. Mais je travaille dans l'amour. Je travaille dans l'accueil d'elle tout le temps. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Et si vous regardez bien toute notre vie, toutes nos relations, c'est toujours une invitation à accueillir l'autre. À ne jamais le changer. À ne jamais chercher à le convaincre de quoi que ce soit. À l'accueillir. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être guidé à dire quelque chose. Mais on le dit dans l'amour. On le dit parce qu'on le sent, c'est tout. Mais on ne le dit pas pour changer l'autre. Pour enseigner à l'autre quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train de vous dire que je dois vous enseigner quelque chose. On n'enseigne rien à personne. On vit l'enseignement, on est l'enseignement. On est l'amour, on est le message soi-même. C'est ce que dit le courant miracle en disant le monde duel, on peut dire, a des messagers. Mais il y a une différence entre les messagers de Dieu et les messagers du monde. C'est que les messagers de Dieu, ils doivent recevoir le message et ils sont eux-mêmes le message qu'ils délivrent. Et c'est toute la question, c'est toute la question. Donc ce livre, au-delà d'un courant miracle, il m'étonne, il est là, il a été écrit par un homme et une femme, c'est très important. Et quand l'année dernière, au mois d'octobre, j'étais invité à aller le présenter devant, avec d'autres, il y avait Gary Renard, il y avait Brett Haskell justement, avec The Other Voice et Journey Beyond Words, il y avait aussi d'autres, Mary Perron avec son livre Un cours sur l'amour, et puis J.I.M. avec La voix de la maîtrise, tout ça c'est pas en français, hein. À part Gary Renard, les deux livres de Gary Renard, qui sont en français. Eh bien, j'étais le seul, d'abord j'étais le seul étranger, et je sens qu'on fait le pont ici entre l'anglais et le français, sur cette planète, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais et en français. Et puis c'était le seul livre qui était écrit à deux, avec deux personnes. Et je sens que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui n'a rien à voir de personnel avec moi ou avec Phoebe. Ça a à voir avec nous, avec qui nous sommes et avec ce qui se passe actuellement. Où c'est par nos relations amoureuses que les choses se font. Que justement il y a des miracles. Comme disait tout à l'heure Raymond, qui parlait du miracle de sa vie et de son émerveillement. Eh bien, c'est des relations amoureuses. Alors, elle a travaillé sur elle-même avec sa maladie, ce cancer, mais finalement, qu'est-ce qu'elle nous a transmis ? Que partout où elle va, elle a des relations amoureuses, elle s'émerveille. Parce que c'est nos relations. Ce n'est pas le fait de guérir un corps qui est important. Le corps, de toute façon, il va virtuellement, il est déjà virtuellement mort. Qu'on vive 100 ans, enfin, qu'un corps dure 100 ans, 120 ans, ou 80 ans, 80 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, ça fait partie d'un plan, mais on n'est pas le corps. Et comme on disait tout à l'heure, comme je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je suis toujours tel que Dieu m'a créé. I'm not a body, I'm free, I'm still as God created me. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et nous vivons des miracles. Donc ce livre, au-delà d'un cours en miracle, je savais à l'époque qu'avec un titre pareil, ça pouvait effectivement provoquer peut-être de la colère. Il y a eu effectivement un peu de colère chez certains. Parce que au-delà d'un cours miracle, ça peut paraître prétentieux. Mais on est tous au-delà d'un cours miracle. On est tous au-delà de toute forme. On est tous au-delà de la Bible, de toute structure, de tout livre, de tout atelier. On est la puissance divine. On est la lumière du monde, comme disait Jésus. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Et d'ailleurs, on a écrit au début que ce livre que vous avez dans les mains, pour ceux qui l'ont, eh bien, c'est un outil non indispensable. Un outil parmi d'autres. C'est jamais indispensable. Et pourtant, c'est là. Donc, voilà. Et je suis guidé à en parler comme ça, dans la simplicité. Et je dis toujours à tout le monde, prenez ce qui vous parle. Les messages, les livres, les ateliers, n'importe quoi, écoutez ce que vous avez à faire. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui parle à votre cœur. Personne n'a jamais à vous dire ce que vous avez à lire, à faire ou à ne pas faire ou à ne pas lire. Et ce que vous faites est juste. Et c'est ça l'amour, c'est d'accueillir la perfection de l'instant présent. Où ce que fait chacun, c'est ce qu'il doit faire. Nous sommes tous à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon moment et dans les bonnes circonstances, sans jamais aucune exception. Voilà, je sens que j'avais à parler de ce livre comme ça, et c'est deux fois déjà tout à l'heure, puisque Avi en a parlé, et ensuite Odile en a reparlé, et donc j'avais senti ce matin. C'est un prétexte, parce que vous voyez, on a un petit groupe ici, nous sommes 11. Et puis il y a ceux qui écoutent l'enregistrement, qui vont être avec les semaines qui vont passer, peut-être 100, 150 ou un certain nombre. Bref. Mais c'est beaucoup plus que cela. Parce que tout le monde est amour et tout le monde est relié. Et quand il y a un groupe comme ici, ou comme vous qui écoutez cet enregistrement, le fait que vous vous ouvriez à transcender le temps et l'espace, eh bien, nous touchons tout le monde. Nous sommes en amour. Et l'amour ne connaît aucune barrière et aucune limite. Et c'est ça, le réveil. Le réveil vient par l'amour, par nos relations amoureuses. Ça, c'est peut-être compliqué à dire, mais c'est extrêmement simple. C'est quelque chose qui ne connaît aucune barrière. Rien ne peut l'arrêter. Parce qu'il n'y a que l'amour et rien d'autre. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ce livre de l'Un cours en miracle. Encore une fois, qu'on peut trouver sur Amazon. Et pas chez un éditeur.
Ce que j'ai envie d'exprimer maintenant, c'est que les mots qui ont été dits n'ont pas d'importance en particulier. Et ce que je ressens maintenant, c'est cet état d'esprit qui plane avec nous, parmi nous. Et cet état d'esprit, c'est nous sommes tous reliés. Nous sommes tous ensemble et nous partageons tous un but commun. Que ce soit ressenti ou pas, mais dans cette pièce et derrière ces haut-parleurs, pour toi qui écoutes, alors le but c'est d'aimer davantage, c'est de s'ouvrir davantage. À quoi ? À notre véritable nature. Et dans cette pièce, lorsque nous nous rassemblons pour partager autour de ces sujets, alors naturellement, nous pouvons baisser les barrières de protection, puisque nous ne sommes pas dans un environnement qui nécessite la croyance de se protéger, la croyance d'être séparé ou opposé à quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe quand les barrières descendent ? Évidemment, l'amour envahit l'espace libéré. Et je ne sais pas si vous pouvez individuellement le ressentir, mais depuis quelques bonnes minutes, je sens que nous sommes ensemble comme dans une grande méditation. Et qu'est-ce que c'est que la méditation ? C'est revenir au centre. À quel centre ? À notre nature, à notre maison éternelle, qui est l'amour. Donc il y a les mots qui sont des tremplins, qui sont des symboles, qui peuvent nous aider à raisonner. Comme une cloche résonne avec la vibration d'une autre cloche. Et il y a le fait que nous partageons un but commun, un esprit. Nous joignons nos esprits ensemble dans un but commun qui est l'amour. Et j'ai appelé le Saint-Esprit en tout début de réunion afin qu'il dirige la réunion. Et j'ai laissé ce contrôle. Et ce que je vois, c'est que, avec le temps, avec les minutes qui passent, avec cet état de réceptivité qui peut s'installer, alors, l'amour est beaucoup plus perceptible. La volonté commune d'un même but est beaucoup plus perceptible. C'est cela qui est au-delà des mots. C'est cela qui peut s'installer, quels que soient les mots, puisque nous joignons nos esprits dans ce but-là. il n'y a pas un seul être humain qui ne veuille pas être heureux. Il n'y a pas un seul humain qui ne veuille pas aimer vraiment et être aimé vraiment. Et lorsque l'ego se replie comme il peut le faire dans ces circonstances où c'est l'esprit qui est en charge, alors la partie aimante de nous peut rayonner et s'exprimer bien davantage. Et il me venait aussi une réflexion qui disait, les gens ordinaires sont naturellement bons. Je ne sais pas si vous le remarquez dans votre vie de tous les jours, les gens sont naturellement bons. Pas tous, mais la plupart. Je vais dans une rue où il y a deux sens de circulation, mais pas la place pour deux voitures. La voiture qui est loin là-bas se range et attend que je passe. Ça se fait naturellement. Il y a des situations, le tsunami de Fukushima, où les gens sont naturellement appelés à céder, à exprimer la solidarité. Lorsque l'eau était coupée dans certaines maisons, dans d'autres maisons, certains affichaient « Ici, il y a de l'eau ». Et plus personne ne verrouillait les portes à clé. Et c'est dans des situations extrêmes où notre nature aimante profondément installée en nous peut s'exprimer notre humanité, dans le sens noble du terme. Et je crois que Nelson Mandela disait cette belle phrase que nous n'apprenons pas à aimer. Nous apprenons la peur, mais nous n'apprenons pas à aimer. On nous enseigne de nous protéger, on nous conditionne avec des réflexes de protection et d'attaque. Mais personne ne nous apprend à aimer. Pourtant, nous savons aimer. Nous savons parce que c'est notre nature. C'est notre nature profonde d'aimer. Il suffit de laisser l'ego se calmer, baisser ses donjons, ses murailles de protection pour voir immédiatement l'amour envahir tout l'espace libéré. Et dans cette pièce, je ressens des vibrations, une réceptivité qui est simplement due au fait que nous avons ralenti notre rythme et nous avons laissé qui nous sommes rayonner un peu plus facilement. Peut-être que chacun ne le ressent pas, ou je ne sais pas, je ne parle pas pour d'autres personnes. Mais mon ressenti, c'est que quelque chose progressivement s'est installé dans la pièce, s'est posé dans la pièce. Et c'est comme si ce qui s'est posé dans la pièce, nous le partagions tous, et c'est comme si ça avait le parfum du retour au centre, à notre centre. En tant qu'être humain, notre centre, c'est vraiment le cœur, celui qui gouverne notre paix intérieure. Mais c'est aussi notre maison, notre unité, le fait que nous soyons tous pareils. Dans ce centre, nous sommes tous identique, le même esprit, dans 7 milliards de corps différents. Et j'ai envie de témoigner que, apparemment, et dans mon ressenti, ces réunions se passent à deux niveaux. Il y a un niveau où les mots interviennent, et il y a un niveau où l'esprit intervient, qui est beaucoup plus subtil, qui se passe seulement dans un ressenti qui pour ma part est un ressenti de paix de plus en plus profonde et aussi un ressenti de communion. Je suis dans ma famille, je suis avec des frères, je suis avec des sœurs, je sais que nous partageons le même but, même si nous utilisons des moyens différents pour l'exprimer. Alors, la plupart des gens sont naturellement bons. Ça me fait extrêmement plaisir de dire cette phrase. Et souvent, nous entendons que dans une situation donnée, il peut y avoir de l'amour qui s'exprime en face de moi, et à ce moment-là, ma réaction naturelle, comme je suis aussi fait de cette matière, de cette énergie, c'est de répondre avec amour, puisque c'est une langue que je connais depuis fort longtemps. Je ne l'ai jamais apprise, mais je suis fabriqué de ça. Et lorsqu'en face de moi, il y a une expression de peur, alors à partir de cet amour dont je suis fait, je considère que cette peur est un appel à l'amour. Et que la personne en face qui réagit avec agressivité, avec peur, avec angoisse, avec panique, d'une certaine manière, elle appelle mon amour, parce que ça manque d'amour à cet endroit-là. Ce qui manque, c'est pas l'amour, parce que l'amour est partout, c'est la connexion à l'esprit de l'amour. C'est la connexion au centre, là où réside l'amour. C'est passer le voile qui me sépare apparemment de l'amour. Et ce voile, c'est le voile de séparation que chacun de nous a choisi et que chacun de nous décide à son rythme de soulever progressivement pour retourner à sa nature initiale, celle qui n'est pas voilée. Et donc quand j'entends un frère, une sœur qui me parle avec un sentiment de peur, ou tout autre sentiment qui reflète de l'ego et qui reflète d'une nature très limitée, alors ma réaction naturelle, même si ça demande parfois quelques minutes de pause pour bien m'y connecter, ma réaction naturelle, c'est de lui offrir l'amour qu'il demande, puisque l'agressivité, c'est une demande d'amour qui s'exprime maladroitement. Je me sens mal, je me sens coupé d'amour. Peux-tu m'aimer? Peux-tu me rappeler de quel amour je suis fait? Et nous le voyons facilement parce que répondre à l'agression par l'agression va renforcer ce sentiment d'être coupé les uns des autres. Alors que répondre à l'agression par oui, je comprends ce que tu vis, moi aussi je l'ai vécu, lorsque mon ego avant était bien plus présent dans ma vie. Je sais de quoi tu parles, et je sais de quoi tu as besoin. Bien sûr, ce ne sont pas ces mots que je vais employer, mais simplement un état d'esprit compréhensif, un état d'esprit qui accueille l'autre tel qu'il est. Et assurément, l'amour transcende tout, l'amour guérit tout, et l'amour est tout. Et donc, une parole d'amour, juste un mot aimant, juste une attitude, juste un sourire, sont les éléments qui peuvent aider l'autre à dépasser cet état dans lequel il pense que l'agression va être la solution. C'est ce qu'on peut appeler l'empathie, c'est ce qu'on peut appeler la compassion. Mais ça reprend tout à fait bien ce que nous disions, ce que je disais au début. L'amour est tout. Donc je réponds avec amour si on me parle avec amour. Et je réponds avec amour si on parle apparemment depuis un état coupé de l'amour. Et donc, ces deux-là sont la solution à toute situation. Mais dans notre expérience humaine, nous avons besoin de nous entraîner à passer progressivement de l'état d'attaque et de défense à l'état de compréhension, à l'état d'empathie. Oui, je comprends ce que tu vis. Voilà. Et intérieurement, je peux lui dire, viens dans mes bras, cher frère. Viens, parce que tu le cries, avec ton agression, tu le cries, cet appel à venir dans mes bras. Mais tu n'en as pas conscience, tu n'as que l'agression pour l'exprimer. Et chaque fois que moi-même, je sens que j'ai mon ego qui m'impulse à agresser ou à réagir, alors je sens qu'il y a cette partie souffrante de moi-même qui réclame encore plus d'amour, encore plus de connexion. Et je m'en occupe. Et je me donne à moi-même ce qu'une partie souffrante de moi-même réclame intensément. Donc il n'y a aucune raison pour ne pas le faire autour de moi. Et tel que je verrais mon frère comme un être d'amour qui ne mérite que l'amour et qui est issu de l'amour, et ainsi je me verrai moi-même. Et donc, il n'y a pas de guérison, on ne guérit pas tout seul. Ce que je donne à mon prochain, je me l'accorde aussi à moi-même. Et ainsi, le salut est instantanément donné aux deux et à tous, hein, puisque nous sommes tous relié. Et quand je vois une personne, n'importe laquelle, dans la rue, je peux penser à cette phrase, nous sommes tous naturellement bons. Simplement, il y a certaines circonstances qui font que cette bonté-là n'est pas accessible. Mais elle est là, elle est quand même là. Je nous aime.
Cela me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a une vingtaine d'années. Alors que beaucoup de gens disent « Ah ouais, ben moi depuis que je suis à Paris, je suis devenu comme les Parisiens. » Il n'y a pas de Parisiens, on est tous devenus des Parisiens. Il y a une vingtaine d'années, j'étais obligée de circuler en voiture et de me garer sans monnaie pour un parcmètre. Donc je rentre naturellement dans un bar, un vieux bar près de Châtelet, et sans me forcer, je dis « Madame, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de me faire de la monnaie ? Il faut absolument que je gare ma voiture. » La dame était une matrone. Qui lève ses deux poings, qui les tape sur le bar. Les tasses vibraient, les verres bougeaient. Et elle me dit, « Ah ben ça alors ! Demandez comme ça, mes mademoiselles, j'en fais à longueur de journée, moi, de la monnaie !»
Et il y a une anecdote qui m'est revenue juste maintenant, là, pour compléter ce que je disais. Il y a, je crois, dans le sud de la France, mais c'est une coutume qui est née en Italie, le concept de boire un café et de payer un café d'avance pour une personne qui viendra sans monnaie, ou qui a oublié son porte-monnaie, ou qui est démuni, qui n'a pas d'argent. Et dans ce bar, on peut venir sans monnaie et juste boire un café offert par un inconnu, si ce n'est pas de la bonté naturelle, ça.
Oui, il y a même des cafés à Paris qui font ça. Et en particulier, j'ai appris, alors là, c'est le plus grand café, le plus luxueux, le plus extraordinaire qui soit. Il me fascine à chaque fois que je le vois. C'est le grand café qui est à côté de l'opéra, qui s'appelle Café de la Paix. Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, eh bien, il a ce système et on peut payer les cafés au café de la paix. Voilà.
Allez, on y va tous.
Au café de la paix.
Et puis il y a d'autres initiatives similaires qui ont lieu en France. Après les marchés, il y a des personnes qui ramassent tous les légumes qui sont encore consommables, qui sont sur le trottoir, et qui font une grande soupe et qui invitent tous les passants à manger gratuitement. Et donc ça parle de cette générosité naturelle, et puis c'est un tissu de relations incroyable. Inimaginable que de lorsque il y a le rapport humain qui est au centre de tout, et que les notions d'argent et les notions de supériorité, infériorité, j'ai les moyens, t'as pas les moyens, disparaissent, et c'est l'humanité qui gouverne les relations. Voilà, je me sens guidé. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention à terminer cette réunion, et à remercier l'esprit pour cette ambiance très famille que je ressens maintenant, et cette proximité d'âme qui peut réchauffer mon cœur, qui peut être ressenti comme étant posé dans cette pièce. Voilà, je sonne la fin du groupe et j'annoncerai prochainement par email la tenue du prochain groupe.